Amen. Bonjour tout le monde. On se tient chaud aujourd'hui, hein, un petit peu. Alors, vendredi soir, je rentre à la maison vers les 19h30. Il y a Mathieu qui nous appelle, qui nous demande, mais Mathieu Perrault, qui nous appelle et qui nous dit, est-ce que vous avez nos billets? Mathieu contrôle les billets et puis il se rend compte que le vol est annulé aux alentours de 20h vendredi soir. Alors, je vais me permettre de dire le nom de la compagnie, hein. Alors, c'est quand même gonflé de s'appeler Facile. Jet Facile. Ouais, alors du coup, c'est facile. Et on a reçu donc l'annulation à 23h pour un vol qui était prévu à 21h. Alors, je vous avoue que, bon, ben, on a essayé de trouver des solutions, mais c'était compliqué. Il y avait des escales en Tunisie, au Maroc. Bon, on s'est dit, bon, quand ça veut pas, ça veut pas. Donc, on n'a pas plus insisté. Maintenant, Dieu nous fait la grâce, parce que, et c'est ça qui est beau aussi, c'est que. J'ai de suite appelé mon papa qui m'a dit bah, écoute, Pierre, il n'y a pas de souci, je serai avec vous dimanche matin. Et donc, on va avoir la joie d'écouter mon papa prêcher ce matin. Moi, j'ai deux papas qui sont des exemples. J'ai un père céleste et j'ai un papa sur terre qui est vraiment un exemple pour moi et qui l'a souvent été. Et je voudrais vraiment l'encourager ce matin, le bénir. Alors, peut-être vous attendiez à voir Mathieu. Vous n'êtes pas perdant. Vraiment pas. Vraiment pas. Après autant d'années de ministère, il a beaucoup de choses à partager. Combien d'années, papa? 50 ans? Ouais, hein, on compte plus là, au bout d'un moment. Hein. Il vaut mieux plus d'ailleurs. Voilà, quand on aime, on compte pas, c'est ça. Vous voulez bien accueillir mon papa, s'il vous plaît? On va lui laisser toute la place.
Voilà, bonjour à vous tous, à vous toutes. J'avais prévu de venir ce matin pour écouter le frère. Et vous, et là, je me retrouve participant, de spectateur, je me retrouve participant. Ça fait particulier, c'est ce que je disais hier à Pierre, ça fait deux coups en un mois. Notre pasteur, le mois dernier, me dit, Alain, il faut que tu me remplaces, je suis fatigué, j'ai des problèmes de santé, etc. Si vous ne pourriez pas me prévenir à l'avance. Voilà. Alors, je ne sais pas si vous y gagnez, mais je crois qu'un certain Balzac a écrit que faute de grive, en fait, il a écrit faute de grive, on tue des merles. Mais ça s'est transposé, faute de grive, on mange des merles. Voilà. Alors, peut-être que je dois dire que. Prier, c'est vrai. Des sermons, on en a beaucoup, n'est-ce pas, Pierre? Tu le sais, toi aussi. Mais je n'ai jamais pu reprêcher la même chose que j'avais prêché. Donc je me suis remis à regarder ce que Dieu voulait pour vous en dépannage, mais je sais que Dieu n'est jamais à court. Il a toujours une solution. Voilà. Alors, nous aimerions lire dans la parole de Dieu, bien sûr, dans un texte, je suis persuadé que vous connaissez ça, mais je pense qu'on peut le voir de certaines manières pour notre enseignement. Alors, c'est dans le deuxième livre des Rois, au chapitre 6, et à compter du verset premier. Voici ce qu'il nous est dit. Les fils des prophètes dirent à Élisée. Voici le lieu où nous sommes assis devant toi est trop étroit pour nous. Allons jusqu'au Jourdain, nous prendrons là chacune des poutres et nous y ferons un lieu d'habitation. Élisée répondit, Allez. Et l'un d'eux dit, Consens à venir avec tes serviteurs. Il répondit, J'irai. Il partit avec eux, Arrivé au Jourdain, ils coupèrent du bois et, comme l'un d'eux abattait une poutre, le fer tomba dans l'eau. Ils s'écrièrent « Ah, mon Seigneur, il était emprunté !» L'homme de Dieu dit « Où est-il tombé ?» et lui montra la place. Alors Élisée coupa un morceau de bois, le jeta à la même place et fit surnager le fer. Puis il dit « Enlevez-le !» et il avança la main et le prit et ils commencèrent et ils continuèrent à travailler. Notre pensée ce matin, alors c'est vrai que ça, le titre ne fait pas recette, hein, j'en conviens, je connais quand même. Hein. Briser pour croître. On va être fort, on va être vainqueur, ça va être formidable, ça va être extraordinaire. Puis j'ai dit à ma femme, moi je garde ce titre. Parce que j'ai regardé les carnets de santé de nos petites filles. Et j'ai vu que c'était de véritables carnets de bord. Alors la taille, la moyenne de la taille, après ceci, après cela, et les premiers machins, les premiers trucs. C'était réellement très particulier. Et les parents et les médecins doivent surveiller le fonctionnement, le développement de l'enfant à tout point de vue. Puis je me suis dit, mais dans le fond, nous prions Dieu, notre Père. Est-ce que notre Père aussi ne se soucie pas de notre propre santé spirituelle? Est-ce qu'il ne s'en préoccupe pas? Et du reste, quand on lit la Bible, on se rend compte qu'il s'en occupe. Hein. Relisez certains passages des Corinthiens ou des Hébreux, vous verrez qu'il se préoccupe de ces choses-là. Il se soucie de cela. Et je dirais, la question, est-ce que nous, on s'en préoccupe? Ah, c'est vrai, dès qu'on tousse, ah, docteur, il faudrait que vous fassiez quelque chose. Ah, dès qu'on a mal à la tête, c'est normal. Hein? Mais est-ce que spirituellement, on s'en occupe, on s'en préoccupe, on s'en soucie? Je pense que ça vaut la peine ce matin de se poser la question. Alors, briser pour croître. Il y a un crustacé qui est très riche d'enseignements. Alors, je vais vous dire, c'est le homard. Je ne sais pas si vous savez. Alors, j'ai relu ça hier sur tous les renseignements possibles et imaginables. Les spécialistes disent que le homard peut grandir jusqu'à 90 cm. C'est exceptionnel. Hein, c'est énorme. Hein. Mais ce qui est intéressant, pour le lire, j'ai relu tous les sites hier, ce qui est intéressant, c'est que le homard, pour grandir, est obligé de casser sa carapace. Alors, je ne sais pas si vous avez mangé du homard ou des langoustes, mais si vous n'avez pas de pince, vous pouvez y aller. Au moins que vous ayez un marteau. Et alors, je ne vous garantis pas l'assiette. Est-ce que vous comprenez? Il y a tout un processus, je ne vais pas vous l'expliquer ce matin, je ne suis pas capable. Mais simplement, c'est que chaque fois que, et c'est tous les ans, tous les 6 mois pratiquement, chaque fois qu'il doit grandir, il doit casser sa carapace. Et il se cache parce qu'il n'a plus de carapace, enfin, il y a tout un procédé, il se cache sous les rochers, il est protégé, etc. etc. et la carapace repousse très vite. Et on se rend compte que c'est quelque chose de très particulier. Alors, il y a une chose aussi intéressante le concernant. Il nous est dit ceci, c'est que comme il doit grandir toute sa vie, ça vous parle là? Ok? Comme il doit grandir toute sa vie, de ce fait, il doit casser sa carapace toute sa vie. Ça va, là, vous vous sentez dans la peau d'un homard? Quand vous allez les voir à la poissonnerie ou le supermarché, waouh! J'ai pris cet exemple exprès pour que vous vous en souveniez. Et qu'on ne peut pas grandir si quelque part, eh bien, on n'accepte pas de se remettre en question. Alors, notre texte nous dit ceci, c'est les fils des prophètes qui étaient avec Élisée. Alors, vous le savez, je crois que Votre serviteur en a parlé. Ce n'est pas des fils de prophètes. C'est une communauté qui se rassemble autour d'un prophète et qui eux-mêmes eh bien, ont expérimenté la révélation de la personne du Saint-Esprit. J'arrête là, ce n'est pas mon propos. Mais si on veut croître, si on veut grandir, nous avons besoin, et je crois que c'est marqué le premièrement, je m'excuse, c'est de ma faute, je ne vous ai pas dit le numéro 1, moi j'enchaîne. Nous avons besoin de l'aide de la personne du Saint-Esprit. L'Église de Jésus-Christ n'a grandi, ne s'est développée que lorsque, le jour de la Pentecôte, 3000 personnes se sont converties. Mais avant, l'Écriture nous dit ceci. C'est dans l'Évangile de Jean, au chapitre 16 et au verset 8, « Le Saint-Esprit vous convaincra de péché, de justice et de jugement. » Et vous savez, ça c'est un choc. Parce que la première des choses que nous pensons, c'est que nous sommes parfaits. Il y a quelqu'un qui me dit non. Très souvent, on dit parfait. Considère, tant qu'on n'a pas de contact avec Dieu, avec la réalité de Dieu, on pense qu'on est parfait. Oh, j'ai entendu bien des hommes et des femmes dire, oh, vous savez, pasteur, moi, je n'ai pas tué. Ouais. Je n'ai pas volé. Ouais. Et il y en a un jour qui a rajouté, je n'ai même pas fait de mal à une mouche. Avec ça, j'ai dit, vous avez le label, vous avez déjà l'auréole. Il me dit, pas quand même, pasteur, mais pas loin. Ah, mais et je crois que la première des choses que l'on reçoit quand tu es en contact avec la Bible, avec les cantiques, avec la présence de Dieu, c'est cette conviction de péché. Le Saint-Esprit est le seul pour nous révéler que dans le fond, on n'est pas si parfait que ça, on n'est pas si bien que ça, et qu'on a besoin de l'aide de Dieu, et de la grâce de Dieu, et du secours de Dieu. Alors, permettez que j'illustre ce que la personne du Saint-Esprit, et j'insiste bien sur la personne du Saint-Esprit, est capable de faire. Il y a bien des années de cela, il y a un petit garçon à Naples. Je vous dirai après qui c'est. Petit garçon à Naples, il a une dizaine d'années, il va voir sa maman. « Maman, je voudrais chanter. » Ah, mon chéri, c'est bien. Alors il dit, « Maman, on est pauvre. On est pauvre, mais je vais travailler. » Je vais travailler pour me payer des cours de chant, de ceci, de cela, de musique, de solfège, de poser la voix, etc. Alors, ce petit garçon travaille et puis il rencontre ou il va voir un professeur de chant et il commence à apprendre le chant, à apprendre le solfège, à apprendre ceci, à apprendre cela, tout ce qu'on peut apprendre quand on veut chanter à cette époque-là. Et au bout de 3 mois, le professeur de chant lui dit, vous ne chanterez jamais. Vous n'êtes pas doué pour ça, c'est pas la peine d'insister. Alors le petit garçon, 10 ans, est revenu en pleurs vers sa maman. Et sa maman lui a dit, mon chéri, je t'aime. Et elle l'a pris dans ses bras très fort et dit, ensemble, on va réussir. Et je vais t'aider, je vais t'encourager, je vais tout faire pour que tu puisses chanter. Alors, maman, tu sais, le professeur, il a dit que, ben, moi, je crois en toi, je crois en toi. Alors, tu vas faire tout ce qu'il faut pour réussir. Alors, il est allé voir, il a continué à travailler. Alors, ce petit chanteur qui est devenu grand, il s'appelle Caruso. Ça vous parle? C'est l'un des plus grands ténors au monde, chanteur d'opéra. Je voudrais ce matin vous dire, cette maman, c'est un petit peu la personne du Saint-Esprit. Cette image. Mon chéri, je t'aime. Dieu nous aime. Et il veut tout faire pour nous amener à réussir. Il va tout faire. Il va nous aider. Il va nous encourager. Et c'est quelque chose d'extraordinaire et de considérer que les disciples, je reviens maintenant, les disciples, eh bien, n'étaient pas tellement très courageux, mais le jour de la Pentecôte, les choses, lorsqu'ils ont été remplis du Saint-Esprit, les choses ont complètement changé. Et si vous lisez encore dans les Actes des Apôtres, au chapitre 19, il est question que Paul arrive à Éphèse. Et vous savez, quand Paul arrive à Éphèse, ou quand il revient pour les spécialistes, pour les théologiens, quand il revient à Éphèse, ils sont 12 chrétiens. Et Paul rencontre ces 12 chrétiens et leur dit, est-ce que vous avez reçu le Saint-Esprit? Oh, je ne sais même pas, qui c'est celui-là? Ah bon? Vous allez voir, je vais vous expliquer. Alors, si vous connaissez un petit peu le tempérament de Paul, vous allez voir, elle va prier pour eux, ils vont être baptisés du Saint-Esprit, et ils vont commencer à, Paul va commencer à annoncer la parole de Dieu, il va y avoir des guérisons, il va y avoir des démons chassés, il va y avoir des choses extraordinaires, et ça va devenir, à l'époque, eh bien, une église des plus importantes, et relisez l'Épître aux Éphésiens, mais ça nous parle d'une chose, c'est que nous avons besoin de lire l'Épître aux Éphésiens, mais également le livre de l'Apocalypse au chapitre 2, où l'Église a perdu de sa flamme. Et nous avons besoin de nous laisser le Saint-Esprit agir, se manifester, grandir dans chacun d'entre nous. Et parfois, pour que le Saint-Esprit puisse agir, nous avons besoin d'être cassés, d'être brisés, afin de croître et de faire de nouvelles expériences avec la personne du Saint-Esprit. Deuxième image. Nous ai dit ceci, c'est que nous avons besoin de croître dans la sagesse et dans l'équilibre. La Bible nous dit ceci, c'est que les fils des prophètes vont dire à Élisée, écoute, le lieu où nous sommes, eh bien, est trop étroit. Alors comprenez que je fais toujours cette corrélation avec l'expérience du baptême du Saint-Esprit. Le jour où les disciples ont été baptisés du Saint-Esprit, il n'y a plus de peur, il n'y a plus de crainte. Ils annoncent la parole de Dieu et Dieu agit et Dieu se manifeste. Et il y a une dynamique qui se produit, il y a un encouragement qui se produit, il y a une force qui se produit, quelque chose d'extraordinaire. Et quand nous lisons eh bien, les paroles de Josué, lorsque Dieu s'adresse à Josué, et au chapitre 1er, il lui dit « Tout lieu que foulera la plante de vos pieds, je vous les donne, alors on va y aller, on va foncer. » On a besoin de cette sagesse. On a besoin de son secours. Lorsque nous lisons encore l'Écriture, c'est Acte 17, chapitre 6, il dit, ces gens ont bouleversé le monde. Il faut lire le texte. Et ils sont ici. Alors les gars, ils sont paniqués. Hein. Ils ont bouleversé le monde. Il faut dire qu'à l'époque, le monde n'était pas très connu. C'était le bassin méditerranéen, principalement. Principalement, pas que ça. Mais alors j'ai regardé ce que le mot bouleverser veut dire. Apporter des changements, c'est chambouler complètement tout. Alors j'entends, pas ici, mais comme je voyage un petit peu pas loin. J'ai plus envie de partir, quatre coups du monde. Frère, on aimerait qu'il y ait un réveil. Ah, j'ai dit oui, mais je leur dis, ok, est-ce que vous êtes prêts à changer vos habitudes, à être bouleversés? Là, pour toutes choses, frères et sœurs, il y a un prix à payer. Pour toutes choses, il y a une question à se poser. Est-ce que, comme l'homard, je suis prêt à grandir et à casser mes habitudes et à casser un petit peu mon train-train? C'est quelque chose de spécial parce que j'étais dans un culte il y a 15 jours et il y a une sœur que je connaissais un petit peu. Et elle me dit, vous savez, pasteur, vous vous souvenez de moi? Je dis, oui, oui, oui. Elle me dit, vous savez, j'ai été baptisé avec le frère Untel. Oui, très bien. Oui, ok. Mais ça ne fait pas tout, le frère Untel. Je dis, mais où en êtes-vous aujourd'hui avec votre relation avec Dieu? Où en êtes-vous avec les expériences avec Dieu? Parce qu'elle venait me dire que ça n'allait pas, ça n'allait pas. Il n'y avait rien qui allait. Je lui dis, mais et vous, est-ce que vous allez bien? Je lui dis. Le problème, il est là, c'est que nous vivons avec des expériences passées. Et c'est quelque chose que j'ai expérimenté il y a quelques années de cela. Je lui dis, maintenant, ça suffit de parler de ceci, de parler de cela. Ça suffit que Dieu a fait ceci, que Dieu a fait cela. Mais j'aimerais parler au présent, parce que Dieu est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Et nous avons besoin de réaliser, de faire des expériences avec le Seigneur, non pas de vivre avec le passé. Non pas de vivre, ah oui, j'ai eu des temps de visitation, mais ça suffit, parce que Dieu est le même. Est-ce que je suis prêt à casser ma carapace, à changer mes habitudes, à prendre du temps pour le Seigneur, je vais venir dans quelques instants? Est-ce que je suis prêt à considérer que j'ai besoin, vu les temps que nous vivons, et comme disait l'apôtre Paul aux Romains, il est temps de se réveiller. Il est temps de prendre conscience de toutes ces choses-là. Vous savez qu'il est écrit « Aller de progrès en progrès ». C'est Paul qui a écrit ça aux Thessaloniciens. Je crois que nous avons besoin de grandir aussi nous avons lu ensemble que les fils des prophètes, ils étaient assis. Il y a des gens qui ont toujours la bougeotte. C'est extraordinaire. Alors, c'est vrai qu'il y a des gens qui sont casaniers, mais il y a des gens qui sont... Et je crois qu'on grandit. On grandit quand on se pose, on réfléchit, on s'attache à ça. Vous connaissez ce texte parce que c'est dans l'Évangile de Luc, chapitre 39. Vous savez, c'est Marthe et Marie. Alors, il y en a une qui s'agite, c'est Marthe. Et Marie, elle est aux pieds du Seigneur. Je voudrais ce matin vous poser la question. Demain matin, vous allez travailler. Alors, vous allez vous poser la question, cette journée, il faut que je fasse, je téléphone à un tel, il faut que je, que je reçoive ce papier, il faut qu'il y ait ceci, il faut qu'il y ait cela, il faut qu'il y ait encore ceci. Ça, vous ressemblez à Marthe, là. Mais je dirais que le matin, avant de commencer, mettez-vous comme Marie au pied de Jésus, et dites, Seigneur, conduis cette journée. Conduis, dirige cette semaine. Le matin, je priais avec mon épouse, je dis, Seigneur, conduis cette semaine. Seigneur, dirige cette semaine. Alors nous pouvons nous laisser gagner. L'Écriture nous dit ici, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître tous vos besoins à Dieu. J'ai besoin de casser ce rythme, de ne pas me laisser impressionner par ceci ou par cela, parce qu'il peut arriver. J'ai besoin de la grâce de Dieu, du secours de Dieu. Si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? C'est ça. Casser la carapace. Et ça, de permettre au Seigneur d'agir et de se manifester, d'intervenir. Alors, il nous dit ceci, c'était assis, il discute avec Élisée, et il dit, écoute, eh bien, on va aller au Jourdain. On va descendre, on va aller au Jourdain. Vous savez que le mot Jourdain veut dire celui qui descend. Quand vous êtes en pleine forme, quand vous êtes en pleine réussite, quand vous avez là, une santé, là, un zèle, une passion, il faut descendre, il faut commencer à s'abaisser. Ah, pas facile. Hein. C'est pas si évident que ça, de réaliser cela. Il y a cette parole de Samuel qui a dit à Saül, je vous donne la référence, c'est 1 Samuel chapitre 15, verset 17, « Quand tu étais petit à tes yeux, vous avez remarqué ? Quand tu étais petit à tes yeux, eh bien, n'es-tu pas devenu le chef des tribus d'Israël ? » Il y a quelques mois de cela, ma femme était une semaine sur un culte d'une très grande assemblée aux États-Unis. Et le pasteur responsable, je crois, il a 10 ou 15 000 membres, il a dit ceci, dans mon équipe, je ne veux aucune personne qui n'ait été brisée. Je ne veux pas travailler avec quelqu'un qui n'a pas été brisé. Et lorsque j'ai des entretiens, on dirait des entretiens d'embauche en quelque sorte, la première des choses que je leur pose comme question, à quel moment avez-vous senti que vous étiez brisé, cassé? Et lorsque j'ai entendu ça, je me suis dit, mais tous les hommes que Dieu a employés ont tous été brisés. Que ça nous plaise ou que ça ne nous plaise pas. Moïse, vous croyez qu'il n'a pas été brisé? Je vous rappelle qu'il était très haut dans la hiérarchie égyptienne. Et d'un seul coup, il se retrouve tout seul dans le désert pendant 40 ans, à garder les troupeaux. Vous avez un bon brisement, là. Vous pensez que d'autres hommes n'ont pas connu ça? Vous pensez que Joseph, avant de devenir le premier ministre, dirait-on, vous croyez que ça... Ah, il est devenu toujours tout de suite premier ministre? Non, non, non. Il est passé en prison... On l'a abandonné, on l'a trahi. Et je ne parle pas de ses frères. Je ferme la parenthèse. Vous croyez que Jacob, avant de devenir Israël, il n'a pas aussi été cassé? Vous croyez que Pierre n'a pas été aussi cassé? Vous croyez que Paul n'a pas été aussi cassé? Et tous ces hommes sont devenus des hommes de Dieu parce qu'à un moment, eh bien, ils étaient obligés de casser leur armure, de casser leur personnalité, leur tempérament. Non pas qu'ils n'étaient plus les mêmes, mais d'un seul coup, eh bien, leur caractère, leur personnalité, ils les mettaient au service de Dieu. Dieu, je veux que tu te serves de nous, je veux que tu utilises, je veux que tu agisses, que tu interviennes.
Vous savez, vous connaissez ce texte, c'est dans les psaumes. Le psaume 34, il nous dit ceci, « L'Éternel est avec ceux qui ont le cœur brisé. » Quatrième, grandir dans l'unité. Être ensemble. Les Français, c'est très difficile. C'est très difficile. Comme disait un certain général de Gaulle, comment voulez-vous gouverner une France où à l'époque, il y avait 300 sortes de fromages? C'est très difficile. On arrive d'être unis que lorsque il y a la guerre. Tout le reste du temps, c'est particulier. Et pourtant, comment je dis à ma femme, écoute, il faut que tu écrives ces citations. Si vous pouvez les mettre, voilà. Ils vont dire ceci, nous prendrons chacun une poutre pour faire eh bien, une maison d'habitation. Nous. Il ne dit pas je, il dit nous. Et c'est la raison pour laquelle il nous a dit ceci, le chiffre 1 est trop petit pour accomplir des exploits. Je vais vous citer des versets d'Écriture. Deuxième chose, l'objectif est plus important que votre rôle. C'est terrible, ça. Alors, je vais vous donner un exemple. Il y a des années de cela, j'étais allé dans une église dans le sud-ouest de la France, et à la fin de ma mission, il y a un monsieur qui est venu. Et ce monsieur s'est présenté, il me dit, je suis un pasteur à la retraite, je suis enchanté, frère, de faire connaissance. Il me dit, est-ce que tu peux saluer le frère Vivier? Ah, je n'ai pas de problème. Il me dit, tu sais, j'ai travaillé avec lui à Oran. Bon, ok. Voilà, il me discute un petit peu, puis je repars, je regagne à Marseille. Et très rapidement, dans la semaine, je crois, je rencontre le frère Vivier, pasteur Vivier. Je lui dis, monsieur Vivier, vous avez le bonjour de votre ancien collaborateur à Oran. Ah, il m'a dit, comment va ce frère? Pour ceux qui le connaissent, il parlait comme ça. Comment va ce frère? Ah, je dis que c'est... Il me dit, si tu savais le bien qu'il nous a fait. Alors, comme il m'a vu un petit peu interrogatif, parce que ce brave frère n'avait pas le physique de l'emploi, n'était pas forcément quelqu'un, un très grand orateur, etc., etc. Il me dit, je vais t'expliquer. Il me dit, je vois que tu t'interroges. Je dis, oui, je suis là pour apprendre. Alors, il me dit, tu vois ce frère? Il me dit, tu as compris que ce n'était pas un orateur. Oui. Tu as compris que ce n'était pas un frère qu'on pouvait mettre souvent sur l'estrade devant 500 ou 600 personnes à Oran. OK. Mais si tu savais le bien qu'il faisait dans les visites, ce qu'on dirait aujourd'hui la relation d'aide. Si tu savais le bien. Il me dit, j'ai envoyé mes stagiaires, j'ai envoyé mes évangélistes. Alors il m'a cité des noms que je connaissais, je ne vais pas vous les citer. Il me dit, il me cassait tout. Alors je lui dis, écoute, si tu pouvais aller voir un tel. Et il me dit, il y a une chose qui se passait qui était extraordinaire. C'est que tous les matins, je savais qu'il se tenait devant le Seigneur dans la présence de Dieu. Et il priait pour un tel. Et d'un seul coup, la personne du Saint-Esprit lui disait, va visiter un tel cet après-midi. Va visiter une telle, va visiter ce foyer, va visiter ces personnes. Et le dimanche matin, moi je les voyais. Merci frère Vivier de nous avoir envoyé ce frère. C'était pas moi qui les ai envoyés. J'ai remercié le Seigneur. Comprenez ?
Que ce qui est important, ce n'est pas notre rôle. Mais ce qui est important, c'est l'objectif. Des âmes sauvées. Une église qui va de l'avant. Une église qui grandit, qui mûrit. Des jeunes gens qui se convertissent, etc., etc. Ce matin, comprenez que nous avons besoin aussi de grandir dans cette unité. La Bible dit ceci, c'est que plus l'objectif est grand ou plus il est élevé, plus ce travail en équipe est nécessaire. Je dis que j'allais vous citer les versets de la parole de Dieu. Vous avez remarqué, Actes chapitre 1, verset 4, « Tous d'un commun accord ». Tous d'un commun accord. La Bible dit ceci, acte 2, chapitre 1er. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble. Tous ensemble. Ne se posez pas de questions. Là, Seigneur, on va agir. Le Seigneur va agir. Le Seigneur va se manifester. Le Seigneur va se glorifier. La Bible dit ceci. C'est 1 Corinthiens, chapitre 12, verset 12. Il y a un seul corps, mais plusieurs membres. Vous avez remarqué? Combien il faut de personnes pour qu'une église marche? En mettant de l'ordre dans tous mes documents là, ces jours-ci, je me suis rendu compte que l'accueil comptait pour 71% pour les personnes qui cherchent une première église. On ne remarque pas forcément. Hein. Merci pour ceux qui sont à l'accueil. Alors, je repense à une phrase, il y a quelques années de cela, on discutait avec mon épouse, avec Nicky Cruz et sa femme. Et il me disait, vous savez frère, ma hantise, c'est la sono. Je dis, ah bon. Je dis, excusez-moi frère, mais... Ah, il me dit, si vous saviez les problèmes que j'ai eus avec les sonorisateurs, alors que Dieu bénisse les sonorisateurs. Alors, vous savez ceux qui font le ménage, hein, ne le remarquent pas. En fait, j'ai combien de temps pour prêcher là encore, Pierre? Il y a quelques années de cela, j'étais à Toulon, dans l'église de Toulon, avec, pour certains, là, vous l'avez connu, le pasteur Édouard Kowalski. Et je lui disais, il n'y avait pas beaucoup de gens, mais comment la sœur, les frères, ils font pour faire le ménage? Tu n'as pas mis beaucoup de lumière, c'est pas terrible, ce truc-là. Il dit, tu veux que je te donne un témoignage? Ah, je dis, oui, vas-y. Et il me dit, écoute, il y a quelques mois de cela, il y a un couple qui vient, comme ça, et la première des choses qu'il me pose comme question, qui c'est qui fait le ménage dans votre cinéma? Parce que c'était un ancien cinéma. Alors j'ai dit, c'est une sœur là, qui a à cœur ça. Eh bien écoutez, vous pouvez la féliciter. Parce que nous dirigeons une entreprise de nettoyage. Et pour nettoyer un tel cinéma, il faut un cœur et un zèle extraordinaires. Et les gens, il me dit, les gens sont venus, sont revenus, et ils sont aujourd'hui chrétiens, ils sont baptisés, parce que la première des choses qu'ils ont remarquées, c'est la propreté dans l'église. Vous avez remarqué, nous formons un seul corps, mais il faut de tout pour faire un monde. Il faut de tout pour faire un monde. Frères et sœurs, ne négligez pas. Alors c'est vrai, alors là je vais un peu m'attirer des ennuis. Parfois tout le monde veut chanter. Ah oui, mais ma femme s'est occupée d'une chorale pendant 40 ans et je peux vous garantir, chaque fois, tu devrais aller voir un tel. Tu devrais aller voir une telle. J'étais le réparateur. Entre guillemets.
comprenez, Dieu nous a donné au moins un talent. Frères et sœurs, il y en a certains qui en ont reçu 5. Gloire à Dieu. Mais faites fructifier les 5. D'autres en ont reçu 2. Mais faites-les fructifier. Peut-être vous en avez un seul. Ne l'enfouissez pas. Ne le dédaignez pas. C'est une grâce de Dieu que Dieu vous a faite. Alors cassez la carapace. Et laissez-vous, Seigneur, agir. Ensuite, cinquièmement, il nous est dit ceci, c'est que grandir, nous avons besoin de grandir dans la communion avec Dieu. Ils vont lui dire ceci, consent de venir avec nous. Ah, on ne va pas partir comme ça. Viens avec nous. Nous, on ne veut pas y aller comme ça, mais viens avec nous. Je crois que c'est important de réaliser. Et je disais, frères et sœurs, il y a ce verset de l'Écriture que vous connaissez tous. C'est Jean chapitre 15, verset 5. Sans moi, vous ne pouvez rien faire. Frères et sœurs, demain matin, prenez du temps. Seigneur, sans toi, je ne peux rien faire. Vous pouvez avoir les compétences que vous voulez, les diplômes que vous voulez, l'expérience que vous voulez, un arrière-plan d'expérience, de réussite, de tout ce que vous voudrez. Sans moi, sans Dieu, on ne peut rien faire. Demandez à Dieu. Seigneur, conduis. Seigneur, dirige. Seigneur, manifeste-toi. Il y avait quelqu'un qui l'avait compris parce qu'il avait été brisé. C'est Moïse. Vous pouvez le lire. C'est un Exode, chapitre 33, verset 15. Si tu ne viens pas avec nous, toi, nous, on ne part pas. Il avait compris ça. Que Dieu nous aide. Je continue, je termine. Il nous a dit ceci, c'est que la croissance, elle peut être interrompue momentanément. Vous avez remarqué, il nous a dit ceci, c'est qu'il y en a un qui va dire le fer de ma hache est tombé dans l'eau. Et il y a des versions qui disent le tranchant. J'ai bien aimé le mot tranchant, parce que c'est vrai que la hache, c'est tranchant. Le tranchant. Et je crois que je me suis posé la question, quelles sont les fois où le tranchant de notre vie spirituelle, il tombe dans l'eau. Et vous savez qu'avec le manche, vous pouvez y aller. Hein, vous ne pouvez pas faire grand-chose. Alors, il y a quelques versets comme ça qui me sont venus. Il nous a dit ceci, c'est que Paul, le Saint-Esprit reprochait à l'église d'Éphèse d'avoir perdu le feu de son premier amour. Il ne nous est pas dit que les Éphésiens avaient perdu l'amour, mais ils avaient perdu le feu de leur premier amour. Ce n'est pas la même chose. Ce n'est pas la même chose. Et on commence, oh ouais, t'es jeune, vas-y. Ce matin, frères et sœurs, il avait perdu le tranchant. Il y a aussi un autre verset que vous connaissez, c'est dans 2 Timothée, chapitre 1er. Je t'exhorte à ranimer le feu, la flamme de ton esprit, du Saint-Esprit en toi. Alors, on pourrait aussi continuer, Seigneur, la motivation. Peut-être le tranchant de l'épée, c'est au niveau de la sainteté. C'est le péché. C'est peut-être, Seigneur, j'ai plus le même temps que j'avais pour prier devant toi, pour lire la parole de Dieu, pour intercéder, pour supplier le Seigneur. C'est terrible de réaliser que d'un seul coup, tout est arrêté pour rien du tout et que nous avons la possibilité de changer, de transformer. Et cet homme nous dit ceci, eh bien, ah, mon Seigneur, eh bien, il était emprunté. Alors, je ne vais pas m'arrêter sur ça parce que le temps passe. Mais cet homme est conscient. Cet homme est conscient qu'il se passe quelque chose et que quelque chose est en train de se passer dramatiquement. Et il se tourne vers l'homme de Dieu. Et là, je voudrais m'arrêter ce matin, interpeller quelques-uns et quelques-unes ce matin. Vous dire ceci. C'est que à partir du moment où cet homme a réalisé que sa hache ne fonctionnait plus, il ne coupait plus, il s'était passé quelque chose. Il se tourne vers Élisée et il lui dit, il faut que tu fasses quelque chose. Et il nous a dit ceci, Élisée dit, mais tu te rends compte un petit peu, il lui a fait aucune leçon de morale. Lisez bien le texte. Il ne lui fait aucune leçon de morale. Où il est tombé? Quel est ton problème? À quel moment? Eh bien, tu as senti que les choses n'allaient plus dans ta vie. À quel moment peux-tu situer que tu as péché, que tu t'es pas comporté et tu n'as pas permis à ta vie de grandir, de prospérer et de casser les choses? Alors, il nous a dit ceci, c'est que l'homme lui dit, mais il est tombé là. Alors, Élisée, pourtant, il fut un homme remarquable. Il dit ceci, il va prendre du bois, il va le casser, et il va jeter le morceau de bois, et le fer va remonter. Je fais très court, il y aurait bien des choses à dire. Ce matin, peut-être tu as conscience, peut-être que vous avez conscience que le fer est tombé. Le fer est tombé. Et vous aimeriez pouvoir repartir tout à nouveau. Tout à nouveau grandir, faire des expériences avec Dieu, voir les choses changer, voir la gloire de Dieu dans votre propre vie, dans votre propre famille, dans l'Église de Jésus-Christ. Alors je voudrais vous dire ce matin, venez à la croix. C'est à la croix qu'on remporte des victoires et les choses, elles n'ont pas changé. C'est à la croix que Dieu pardonne, que Dieu relève, que Dieu fortifie, que Dieu vient à notre secours, que Dieu vient à notre aide et il fait des choses. C'est le sang de Jésus qui nous lave et qui nous purifie de tout péché. Rappelez-vous, le psaume 32, vous le connaissez, c'est David qui dit « Tant que je me suis tu !» Eh bien, c'était la catastrophe, mais je t'ai fait connaître mon péché. Et les choses ont été changées, elles ont été transformées, j'ai eu une vie nouvelle. Ce matin, posez-vous la question. Est-ce qu'il y a des choses qui se sont arrêtées dans ma vie? Est-ce qu'il y a des choses qui ne fonctionnent plus? Est-ce que je ne permets plus à ma vie spirituelle de casser et d'être brisé dans mon caractère, dans ma façon de voir, dans mon langage, dans mes pensées, dans mon comportement? Seigneur, je veux que ça change. Je veux que tu interviennes ce matin, tu viennes à mon secours. Dieu n'est pas là pour nous juger, mais pour nous sauver. Alors, laissez-vous ce matin, Seigneur, agis. Seigneur, manifeste-toi. Seigneur, viens. Nous est dit ceci, c'est que les justes, fleurissent comme le palmier et ils croissent comme le cidre du Liban. Que vous puissiez non pas rester enfermés dans votre coquille, que vous restiez étouffés dans votre coquille, que vous restiez étouffés, brimés, et ne voyons plus la gloire de Dieu. Mais si vous ne voyez plus la gloire de Dieu, ce n'est pas de la faute de Dieu, parce que Dieu n'a pas changé, mais c'est parce que vous ne permettez pas à votre carapace d'être cassé, d'être brisé, et afin que la gloire de Dieu se manifeste et que Dieu voit le changement. Rappelez-vous de cette maman avec son fils. Mon fils, je t'aime. Je ferai tout pour que tu réussisses. Et mes frères et sœurs, Jésus-Christ est mort et il a donné sa vie pour que nous puissions être sauvés, délivrés et réussir, que son nom soit béni. Seigneur, nous voulons te louer ce matin. Seigneur, tu es là, tu es au milieu de nous, et nous voulons nous courber devant le roi des rois, devant le Seigneur des seigneurs. Seigneur, tu es au milieu de nous. À toi la louange ce matin. Seigneur, à toi la gloire ce matin. Cher Saint-Esprit maintenant, Seigneur, nous te prions, Seigneur, d'interpeller les cœurs ce matin. Te prions ce matin, Seigneur, de réveiller, Seigneur, nos frères et les sœurs, des frères et des sœurs, et de leur faire prendre conscience que peut-être, le fer est tombé, peut-être le zèle est tombé, peut-être l'amour est tombé, peut-être la passion est tombée, peut-être l'envie de prière, l'envie de lire la parole de Dieu, l'envie de venir à la réunion, l'envie, Seigneur, de te ressembler, d'avoir un témoignage à la gloire de Dieu. Alors ce matin, cher Saint-Esprit, ranime dans les cœurs, ranime, cher Saint-Esprit, dans les vies, au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus, Seigneur, que les carapaces, Seigneur, éclate ce matin, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et si quelques-uns ce matin vous vouliez simplement dire, Seigneur, je veux que tu agisses dans ma vie. Seigneur, je veux que tu agisses dans mon cœur, dans mon existence. Seigneur, je te prie ce matin. Alors simplement, ayons toute la liberté, vous vous levez à votre place et vous priez le Seigneur. Vous demandez au Seigneur d'agir et de se manifester. Si vous voulez vous lever ou lever la main, prenez une position. Prenez position pour le Seigneur ce matin. Prenez position pour le Seigneur ce matin. Seigneur, je m'engage. Je veux te suivre, Seigneur, ce matin. Je veux que tu agisses, Seigneur. Je veux, Seigneur, mon Dieu, voir la gloire de Dieu dans ma famille ce matin, dans mon travail ce matin, dans mon couple ce matin. Alors vous vous levez à votre place, ayez Seigneur, priez le Seigneur et demandez à Dieu d'agir et de se manifester. Ayez cette liberté ce matin. Rappelez-vous quand le fils des prophètes a dit qu'il avait perdu le fer. Élisée n'a rien dit, mais il est venu à son secours. Et que ce matin, le Seigneur vienne à votre secours ce matin. Alléluia. Au nom de Jésus, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, mon Dieu, manifeste-toi ce matin. Viens bénir ton héritage. Viens bénir tous ceux peut-être qui n'ont pas ce courage de se lever, mais qui ressentent dans leur cœur qu'ils ont besoin de la grâce de Dieu, du secours de Dieu. Alors, Seigneur, à toi la gloire ce matin. À toi la louange, à toi la victoire ce matin. À toi la délivrance. Au nom de Jésus. Et nous voulons lier les puissances des ténèbres au nom de... Seigneur, glorifie ton nom ce matin. Oh non, viens casser, Seigneur, ceux qui sont peut-être en besoin de conviction de péché. Alors, Seigneur, tu les amènes à réaliser qu'ils sont loin d'être parfaits, mais qu'ils ont besoin de ton secours, qu'ils ont besoin du sang de Jésus. Au nom de Jésus, Seigneur, au nom de Jésus, mon Dieu, manifeste-toi. Et merci de bénir ton héritage. Merci de bénir ses frères et ses sœurs. Au nom de Jésus, Amen et Amen.